Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Ce livre qui est un livre de restauration, un livre d'espérance pour la restauration de Dieu dans nos vies. Ésaïe 58, verset 12. Je lis ceci. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. J'aimerais simplement, faire un petit commentaire sur cette phrase où il est question « On t'appellera restaurateur des brèches ». Alors, il y a naturellement dans cette pensée, dans cette écriture, un objet, un sujet, une raison, nous pourrions dire, parce que tout le contexte que nous allons aborder, c'est un contexte qui nous parle de réparation pour aller vers une restauration. Alors, je ne sais pas si, vous voyez, ça pourrait peut-être sembler des synonymes, mais il y a quelque chose de tout à fait particulier. Quand on aborde le sujet, c'est l'histoire de portes. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Des histoires de portes, les portes de Jérusalem et d'Israël, et particulièrement Juda. Il y a un homme providentiel qui va être, là, entre les mains de Dieu, un agent de réparation et de restauration. C'est cet homme que l'on appelle Néhémie, qui a écrit un livre dans la Bible et qui peut être véritablement porté le titre, la qualification, la fonction de réparateur des brèches. Et pour cela, nous allons lire dans Néhémie chapitre 3. C'était tout simplement un préambule pour nous conduire à Néhémie chapitre 3. Et je voudrais lire que quelques portions, quelques fractions de ce passage, de ce chapitre. Vous pouvez l'écouter parce que je ne vais pas lire tout, je vais passer de verset en verset, je vais sauter beaucoup de versets, mais je vais insister tout simplement sur quelques éléments qui vont être importants dans notre réflexion. Éliashib, le souverain et sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Un peu plus loin, au verset 3, les fils de Séana bâtirent la porte des poissons. Encore un peu plus loin, verset 6. Jojada, fils de Paseach, je passe les noms difficiles, réparèrent la vieille porte. Nous arrivons au verset 13, où il est dit ceci. Anan et les habitants de Zanoac réparèrent la porte de la vallée. Verset 14. Makija répara la porte du fumier. Verset 15. Shalom répara la porte de la source. Verset 26. Les Néthiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient. Verset 28. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun dans sa maison. Un peu plus loin, Shemaïja, gardien de la porte de l'Orient. Alors, je m'arrêtais là parce que, vous avez vu, il y a une énumération de portes qui sont identifiées avec des noms. Et ça, c'est important. Pour ceux qui ont eu l'occasion ou le privilège d'aller à Jérusalem, alors, aujourd'hui, il y a toujours des portes à Jérusalem, mais il y a eu beaucoup de modifications parce qu'il y a quand même, depuis Néhémie, des siècles et des siècles qui se sont écoulés. Alors, la ville s'est agrandie, enfin beaucoup de transformations, mais toujours est-il que du temps de Néhémie, qui correspond à une histoire particulière, il y avait ces portes qui étaient nommées. Et elles ont un sens, et j'aimerais justement porter notre réflexion un peu sur tout cela, parce que il est question de réparer, il est question de travailler, il est question de bâtir, il est question de remettre en état ce qui a été détruit. Laissez-moi dire quelques mots sur Néhémie d'abord. C'est un juif qui a été exilé en Perse, et d'abord à Babylone probablement, et en Perse en Suisse, puisqu'il est devenu un haut fonctionnaire, un ministre, nous pourrions dire, à la cour du roi perse, Artaxerxès. Et il avait à cœur, il pensait toujours à son pays dans lequel il avait été privé, comme des milliers et des milliers de juifs. Et c'était véritablement, eh bien, le sujet de son cœur de voir la ville de Jérusalem retrouver la gloire d'antan, la gloire d'autrefois. Et il a été conduit par Dieu à revenir avec tout un certain nombre d'exilés et de reprendre le chemin après l'exil, enfin, ou suite à l'exil, le chemin d'Israël, le chemin de Jérusalem. Et le livre qu'il écrit, c'est un résumé de tout ce qui s'est passé pendant 13 années, en quelque sorte. Ça, c'est le côté historique. Et il va avoir, de la part du roi de Perse, le mandat, avec Esdras, toujours un autre livre de la Bible, eh bien, de restaurer cette ville qui a été détruite du temps de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui avait tout rasé. Et nous voyons qu'il va devenir le gouverneur principal du territoire d'Israël. Et c'est un homme d'une grande valeur, parce que Dieu lui a donné des qualifications pour l'ordre social, pour le gouvernement d'Israël, pour remettre finalement, eh bien, sur le plan moral et sur le plan spirituel, le pays en route, tout simplement. Et il va y avoir donc une reconstruction de la ville de Jérusalem. Esdras se chargera des murailles, et puis du temple, pardon, et Néhémie se chargera de la reconstruction de la ville, des murailles et les portes, et en vue d'une restauration spirituelle. Je voudrais dire tout de suite, parce que ça va être le sujet, c'est qu'il ne peut pas y avoir, finalement, de restauration spirituelle ou de bénédiction spirituelle s'il n'y a pas un précédent, que tout ce qui est ruiné, tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été rasé, tout ce qui a été endommagé, eh bien, doit passer par une reconstruction, par un travail du Saint-Esprit dans nos cœurs avant de rentrer pleinement dans la dimension de la restauration spirituelle. Alors on va voir ça ensemble parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. La porte, ou les portes, évoque l'idée de la liberté d'abord. Nous sommes dans cette salle, nous pouvons rentrer, nous pouvons sortir, et puis également d'une protection, d'une sécurité, parce que quand je suis dans ma maison, que j'ai fermé les portes, ce matin j'avais perdu encore les clés de ma maison. Bon, mais c'est vrai, hein, ce que je dis. Bon, c'est toujours un petit souci avant de prêcher, parce que je me dis où je les ai mis. Mais bon, heureusement que j'ai une compagne qui a toujours aussi les siennes. Je rentre chez moi ce midi. Mais toujours est-il que, quelque part, eh bien, c'est toujours l'idée de liberté, de pouvoir également être en protection, entrer, sortir, être protégé. C'est ça le sens. Je vais donner une vérité de la palisse, mais une porte, c'est toujours entre deux murs. Vous êtes d'accord? Parce qu'autrement, je vois probablement pas pourquoi il y aurait une porte et il n'y aurait rien dehors. Hein. C'est toujours entre deux murs. Donc, tout ça, c'est un point de passage, naturellement, un endroit où on passe, on va dedans, on peut sortir dehors, et vice-versa, hein. Donc la liberté. Figurez-vous que le livre de Néhémie est tout simplement le récit d'une, je le dis à nouveau, d'une reconstruction après une destruction. Ça, c'est l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de Juda, en quelque sorte. Et quand on pense à ces deux mots, reconstruction, ensuite, après destruction, on est forcé, nous chrétiens, de penser au salut. Si vous permettez l'approche, et de vie nouvelle. Et c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Nous avions une vie ancienne. Nous étions, n'ayons pas peur des mots, nous étions perdus. Sans le salut en Jésus-Christ. Sans le message qui a suscité de la foi dans notre cœur et qui nous a permis de saisir, eh bien, par la confiance dans la foi que Dieu était capable, et par amour, non pas en raison de nos mérites, mais par amour de nous sauver. Et c'est un peu sur cela que nous voulons bâtir. Et les histoires de l'Ancien Testament, c'est toujours une préparation au salut, à une vie nouvelle, à quelque chose qui nous donne à réfléchir et de savoir où nous en sommes également. Est-ce que nous avons fermé la porte? Ou est-ce qu'elle reste toujours ouverte? Est-ce que je n'ai pas perdu ma véritable liberté en Jésus-Christ? Est-ce que quelque part, eh bien, là, il y a l'expression d'une vie nouvelle en moi? C'est vrai pour un homme, c'est vrai pour une femme, c'est vrai pour une église. Est-ce que tout cela eh bien, est en fonctionnement? Est-ce que le travail de Dieu a été fait? Alors nous allons considérer dans le symbolisme, parce que la Bible est aussi un livre de symboles, hein, de choses cachées, mais qui quelque part, ce sont des réalités spirituelles, eh bien, nous allons considérer à la fois ce symbolisme et les caractéristiques de chacune des 10 portes de Jérusalem. C'est intéressant. Il y a deux remarques que je voudrais ajouter à ce que nous avons dit. La protection et la sécurité, ou la garantie de sécurité. Gardez les portes. Nous, chez nous, on a des clés électroniques et tout ce que vous voulez. C'est drôlement moderne, hein. C'est pas mal. Mais on s'aperçoit que dans d'autres pays d'Orient, eh bien, il y a des gardiens aux portes. Je reviens du Maroc il y a à peu près 3 semaines, et tout est gardé avec des hommes. C'est pas des clés. Enfin bon, les gens dans leur appartement ont des clés, naturellement. Mais les parkings sont gardés, l'immeuble, les résidences sont gardées. Il y a des gens qui, si c'était ainsi, il y aurait moins de chômage en France, hein, je peux vous dire. Hein, parce que tout le monde travaille à ce rythme-là. Tout le monde a un petit boulot. Tout le monde a quelque chose. Et c'est intéressant. Jour et nuit, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Donc il y a de la relève, etc. Gardez les portes. Vous savez pourquoi les portes sont gardées? Il faut garder les portes parce que nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi qui à tout moment peut pénétrer dans la ville, si nous restons sur cette image. Et à tout moment, il peut pénétrer dans la maison, dans ma maison, dans votre maison. Mais nous avons aussi un ennemi et nous avons besoin d'y veiller, qui peut pénétrer également à tout moment dans notre vie. Et là, nous allons voir que il y a des portes à garder. Il y a toutes sortes de choses dont nous avons besoin de faire attention. Parce que le but de l'ennemi, le but de l'adversaire, c'est pas pour faire un petit tour et par curiosité de voir ce qu'il y a chez moi. C'est pour ce qu'il y a chez moi, le voler, voire même le piller, et dans certains cas, le saccager. Je me suis trouvé témoin, après un vol dans une maison, du saccage. Et là, je peux vous dire que psychologiquement, c'est très difficile. Quand vous arrivez et que vous avez laissé la maison dans l'état et convenablement, et que vous revenez, que tout est en l'air, tout a explosé, quelquefois sans avoir rien pris, mais tout simplement par esprit de destruction. Ça, c'est quelque chose qui est terrible. C'est terrible à vivre, hein. C'est traumatisant, nous pouvons dire. Alors, il y a des portes. Et je voudrais vous peut-être avancer un peu dans le sujet. Si je vous dis que nos sens humains, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, et puis le gustatif, le goût, je l'ai dit, non, je ne sais plus, enfin il y en a 5. Hein. Tout ça, ce sont des portes. Ça fait partie de notre humanité. Et là, nous avons besoin de veiller à tout cela. Parce que s'il y a une porte d'entrée pour pénétrer et détruire, il y a des portes de sortie aussi. Et les portes de sortie, eh bien justement, c'est là où nous avons besoin d'y veiller, parce que il y a l'apôtre Jacques, qui nous dit et qui nous met en garde de quelque chose qui pourrait être très important pour chacun d'entre nous. Nous qui sommes quand même des habitués à veiller aux portes. Et ce matin, je voudrais vous dire que vous êtes venus à ce culte comme vous venez dans une réunion de prière ou dans une réunion d'évangélisation, c'est que vous veillez à ce que, quelque part, ce que vous entendez ne sorte pas. Enfin, c'est ce que nous pensons. Écoutez bien, vous allez comprendre et vous allez faire le rapport. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Elle a été plantée en nous, elle est rentrée en moi. Mais mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, elle va sortir. Donc elle rentre, mais elle peut sortir aussi vite qu'elle est rentrée. Ça, c'est un avertissement préalable pour ce que je vais vous dire par la suite. Parce que ça ne sert à rien de venir au culte. Excusez-moi, je ne voudrais pas être provocant. Ça ne sert à rien de faire de la figuration si véritablement nous ne vivons pas et nous ne mettons pas en pratique ce qui est rentré en nous, et que c'est tout simplement rentré par une oreille et puis ça sort par l'autre. Ça ne sert à rien. Donc les portes sont ouvertes, grandes ouvertes, ça va, ça vient, ça passe, et on ne retient rien. Et ça, c'est un véritable danger dont l'adversaire va exploiter au maximum. Lui, il ne va pas se gêner. C'est pour ça que l'apôtre, c'est pas l'apôtre, mais c'est le prophète Jérémie qui nous dira, et Dieu parlera de la part du prophète Jérémie en disant « Mais vous allez vous abreuver à des sources crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Quelqu'un qui aurait intensément soif et qui se dit « Moi, je vais aller boire à la fontaine » et qu'il y va avec une passoire, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Hein. À moins qu'il se mette en dessous la passoire, mais il ferait mieux de boire avec quelque chose dans un récipient étanche, hein, naturellement. Alors on comprend. Et il y a des portes d'entrée, et nous recevons à la porte d'entrée, c'est ce que nous recevons ce matin. Et nous voulons garder fidèlement et de dire Seigneur, aide-moi à garder. Mais après, il y a des portes de sortie, ça peut passer de par tous les sens. Il y a un autre aspect que je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est les portes que nous négligeons, ou les portes que nous n'entretenons pas. C'est-à-dire que nous ne les gardons pas en bon état. Ça revient à ce que je disais précédemment, il y a un instant. Des portes qui ont été rouillées, manque d'huile, ça grince. Et ça, c'est très désagréable. Surtout quand il y a un peu de vent et la nuit, ça vous réveille. Hein. Les portes qui sont fermées, les portes qui sont barricadées, les portes qui sont verrouillées, c'est autant de dangers dont nous avons besoin de faire face. Et Dieu nous a donné des portes. Hein, il y a des entrées, il y a des sorties, il y a toutes sortes de choses de ce genre que je suis en train de vous expliquer. Il y a aussi un autre aspect que nous parlerons dans une porte particulière, c'est tout simplement la non-évacuation des ordures et des déchets. Dans une ville, il y a une voirie. Et je peux vous dire que quand il y a des grèves de ces 10 services, c'est quelque chose de catastrophique. Hein. Parce que ça ne peut pas rester dans la ville, dans le monde, avec les hommes. Imaginez-vous, c'est quelque chose. On aime ce qui est propre. Enfin bon, je suppose. Hein. Mais ça doit être évacué. Ça doit naturellement partir. Parce que ça favorise l'asphyxie. Il y a des gens qui peut-être aiment le désordre, aiment un petit peu tout ce qui est sans dessus dessous. Et ça procure, et ça, c'est la propagation des maladies. Vivre avec des choses qui sont malsaines, qui vont devenir malsaines, qui vont finalement amener la corruption. Donc il faut que ça sorte, ça. Il y a des choses qui restent et des choses qui doivent sortir. Le recroquevillement sur soi, de dire je ferme toutes les portes et puis je me mets dans mon petit coin, mais au bout d'un certain temps, il va y avoir une accumulation, ça va pas être bon, et ça conduit toujours à la mort. Et nous avons besoin de veiller à ce que les portes de notre vie soient en bon état, en bonne santé. Je te souhaite que, tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous connaissez Jean à Gaïus, dans la fin de la Bible. En bon état, pour permettre l'abondance. Mais quelque chose de sain, quelque chose de bon. Parce que, il y a des choses qui rentrent, et il y a des choses qui doivent sortir. Dans une ville, il est nécessaire qu'il y ait un approvisionnement en eau. Toutes les villes de l'ancien temps, ils faisaient attention à cela. Hein. Et puis en nourriture. Autrement, nous sommes dans un état de siège. Et le siège, c'est toujours les préludes de la mort, quoi qu'il en soit. Ça, c'est notre vie. C'est la ville de Jérusalem. C'est la société, c'est le monde dans lequel nous sommes. Une dernière réflexion, c'est quand on lit le livre de Néhémie, c'est véritablement la motivation des reconstructeurs. Et nous sommes tous des reconstructeurs. Dans le domaine de notre propre vie, à y veiller, mais dans le domaine également de notre service dans l'Église. Nous sommes des reconstructeurs. Il y en a qui ont construit avant nous. Et nous prenons le relais. Et d'autres prendront. Mais dans quel état d'esprit les choses sont faites? En tous les cas, en ce qui concerne cette démarche constatée dans le livre de Jérémie, c'est que tout le monde est d'un seul cœur, d'une seule âme et d'un même esprit. C'est l'unité complète, mais il y a un chef. Ce chef, c'est Néhémie. Et vous savez pourquoi ça marche du temps de Néhémie? C'est que c'est lui qui donne l'exemple à tout le monde. Ouais. Il n'est pas dans un fauteuil en disant « Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré, alors les petits amis, c'est vous qui allez faire le travail, parce que moi déjà, ça me suffit d'avoir eu déjà cette révélation, je vous la partage, mais maintenant à vous de travailler. » Non, Néhémie, il nous est dit à un moment donné, ils avaient la truelle dans la main, emblème de la reconstruction, et l'épée de l'autre parce qu'il y avait des combats et des luttes. Et si on veut faire quelque chose pour le Seigneur, je peux vous dire qu'il va y avoir des luttes et des combats. Parce que nous touchons à quelque chose qui dérange l'ennemi. Et ils étaient superbement motivés. D'ailleurs, relisez chez vous le chapitre 3, de Néhémie, et vous allez voir un petit peu, dans le contexte, comment ils ont mis du cœur à l'ouvrage. Alors, on va faire le tour de Jérusalem, vous êtes d'accord? C'est gratuit, hein, je vous prends rien. Quand même, je vous fais un petit cadeau. On va faire le tour de Jérusalem. Pour ceux qui y ont été, c'est très intéressant, parce qu'on peut marcher autour des murailles, hein. Formidable, on voit toute la vieille ville, hein, ça c'est extraordinaire. Jérusalem, c'est une grande ville, hein, 600, 700 000 habitants, mais la visite, c'est surtout le cœur de la ville, c'est la vieille ville. Alors, on va commencer par la porte des brebis. Porte des Probis, ça se trouve, me semble-t-il. Vous avez des cartes sur votre Bible, vous allez pouvoir suivre, là. Vous avez certainement dans votre Bible, à la fin de la Bible, des cartes de la ville. Et je pense que ça se trouve donc plutôt au nord, au nord-est. Porte des Brebis. Pourquoi on l'a appelée comme ça? Parce que les Bédouins entraient par cette porte à Jérusalem avec leurs troupeaux. Et ils amenaient leurs troupeaux différents, les brebis et puis autres, hein, des ovins, des bovins. Qu'est-ce que j'ai dit? Des ovins, hein? Oui, des bovins, mais pas des porcins. Bon, voilà. C'était la nourriture. Naturellement, il fallait que les gens se nourrissent. Et puis, ils entraient aussi avec pour les sacrifices au temple. Hein. Imaginez-vous un peu ce que ça pouvait représenter. On l'a appelé la porte des brebis. Et ça, c'est une belle allusion à ce que Jésus nous dira plus tard dans l'Évangile. Il dira, « Je suis le bon berger. Je suis la porte des brebis. Je suis celui qui fait entrer, qui fait sortir pour donner l'abondance et la liberté. » Oui. Il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, mais je vais les chercher pour qu'elles rentrent dans la ville. Et ça, c'est une belle image que nous avons pour nous montrer que la porte des brebis, Jésus, en a fait finalement une belle parabole pour chacun d'entre nous. Et il nous mettra en garde contre les mercenaires, contre les brigands, contre les ravisseurs, en disant surtout ne les écoutez pas. Il n'y a qu'une voix que vous devez écouter, c'est ma voix, parce que moi je suis le bon berger et mes brebis connaissent la voix du bon berger et elles ne suivront pas des malfaiteurs, mais elles suivront la voix de celui qui les conduit, qui les aime et qui les soigne. Voilà. Porte des brebis, image de liberté en opposition donc à ces voleurs, à ces mercenaires, qui eux longent les murs de la cité, de la ville, en secret, pour saisir les imprudents. Attention, saisir les imprudents. Nous sommes dans les murs, oui, derrière la porte, protégés et garantis avec cette assurance que nous avons la liberté de rentrer et de sortir. Mais attention, attention, nous devons rester intramuraux. Est-ce que ça veut dire? Dans la présence du Seigneur. Je suis le bon berger. Il y a la porte des poissons. Alors, la porte des poissons, elle s'appelle de cette manière, parce que, figurez-vous, eh bien là, c'est l'endroit de passage, l'endroit d'accession pour arriver à la ville de Jérusalem, qui était utilisé par les Galiléens et les Tyriens. Vous savez pourquoi? Parce que les gens de Tyr, c'était sur le bord de la Méditerranée, c'était des pêcheurs avant tout, et les Galiléens, ils avaient un lac que l'on appelle le lac de Galilée, et ils venaient vendre leurs poissons, finalement, eh bien, à Jérusalem. C'est pour ça qu'on l'a appelé la porte des poissons. Poissons frais, hein? 3 jours de route. Alors, je ne sais pas. Voilà. Ça fait un peu comme dans Obélix, vous savez. Comment il s'appelle le monsieur, là, qui vend ses poissons? Ah, vous vous souvenez? Bon, retenez pas le mot. Je voudrais pas vous détourner avec des, hein, tout simplement. La porte des poissons, c'est l'emblème du témoignage et de l'évangélisation. Alors, bien sûr, quelquefois, on met ça derrière notre voiture, mais c'était un signe de reconnaissance des premiers chrétiens. Parce qu'il y avait une telle opposition, une telle persécution, qu'on se reconnaissait avec le signe du poisson. Comprenez? Et c'est l'emblème. Et nous croyons que la mission première de l'Église, la mission première des chrétiens, c'est de nous souvenir que nous avons un témoignage. Et que nous avons à faire porter ce témoignage, donc, à travers l'évangélisation autour de nous. Encore un texte dans la Bible qui évoque bien que la porte des poissons. La porte a été ouverte pour la première fois, un jour, sur les bords du lac de Tibériade, où il y a eu une pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse a eu lieu parce qu'il y avait Jésus. Et c'est l'histoire qui nous est rapportée dans Luc, au chapitre 5. Il y avait 3 hommes au départ. Il y avait André, il y avait Pierre, il y avait Jean. Et Jésus s'est approché d'eux pour leur demander de venir à lui. Et il leur a donné un ordre, jetez les filets. Ça, c'est le rôle de l'Église, de jeter les filets. Notre Église et votre Église, l'Église subsistera tant que nous aurons la vocation de regarder au-delà de la porte des poissons et de pouvoir proclamer autour de nous tous ceux qui n'ont pas été pris dans le filet. Le filet de la grâce, c'est pas un piège, c'est pas une secte, mais le filet de la grâce pour qu'ils soient bénis et soient sauvés. Jetez vos filets. C'est important. Pour devenir, comme Pierre l'entendra d'une manière très, très forte, des pêcheurs d'homme, avec l'accent circonflexe, hein. De pêcheur, on devient pêcheur. La porte des poissons, ou l'ordre de la mission, en quelque sorte. Dans Matthieu, allez par tout le monde. Dans Marc, plutôt. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. C'est Dieu qui remplit le filet, c'est pas nous. Nous, on ne sauve personne. Mais c'est Dieu qui, lorsque le filet est jeté, c'est lui qui le remplit. Donc, quelque part, c'est un ordre de mission. Faites du monde entier des disciples en leur prêchant l'évangile, en leur enseignant ce que je vous ai enseigné. Vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai, hein, Erwan. Voilà. Tout ça, c'est la porte des poissons. Il y a ensuite la vieille porte. La porte vieille, si vous voulez. C'était un vestige du passé qui n'avait pas été trop endommagé. On avait reconstruit un peu dessus. On avait remonté les murs et on avait refait la porte vieille. L'idée qui ressort fait penser à la dégénérescence causée par le vieil homme dans notre humanité. La vieille porte. Ouais. La dégénérescence, la corruption, le péché, dont il faut se débarrasser, et ce vieil homme, il faut le mettre à la porte. Lui, il n'a pas ses jours à l'intérieur. Il faut fermer la porte derrière lui, la porte de nos vies. C'est le dépouillement. Et ça, c'est une grande doctrine du Nouveau Testament. C'est le dépouillement du moi charnel, parce qu'il est un danger, il est une menace, parce qu'il stoppe, neutralise toute croissance de notre vie, de notre relation avec le Seigneur. Ça ne peut pas marcher. Si on veut être dans la ville, intramuros, si nous voulons être là dans ces qualités de liberté et de protection, de sécurité, on ne peut pas garder à l'intérieur de nous-mêmes le vieil homme. Et vous le connaissez, votre vieil homme? Ou votre vieille femme? On le connaît, hein. Qu'est-ce qui nous joue des tours, hein? Parce que, quelquefois, il nous parle tellement gentiment. Il sait que t'es pas mal, quand même. Ouais. T'es beau, hein? Enfin, bon. Voilà. Tu es super intelligent, tu te rends compte? Ah, dans ton église, t'es quand même le plus spirituel. Hein. Et il nous fait des petits coups comme ça de temps en temps. Et finalement, on se dit, mais il a peut-être pas tort, le vieil homme. Eh, la vieille porte, le vieil homme. Puis à côté, il y a une voix qui nous dit, dis donc, il faudrait peut-être quand même que tu arrives à te dépouiller pour prendre des habits neufs. Hein. Parce que ça va pas dans le décor, hein. Si je peux me permettre de dire ça comme ça. Eh oui, la vieille porte de la ville de Jérusalem. Parce que finalement, quand on entretient les deux, quand on est assis entre deux chaises, il ne peut pas y avoir de croissance. Et on se dit, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça fonctionne pas? Parce que Jésus nous dit, mais on ne peut pas servir de maître à la fois. La vieille porte, le vieil homme. Et puis après, il y a la porte de la vallée. Pour ceux qui ont été à Jérusalem, vous connaissez la porte de Jaffa, hein? C'est une des plus belles. Enfin, moi, pour moi, c'est vrai que hein, quand on rentre là, directement, on rentre par la vieille ville, c'est un peu là. La porte, l'arc de triomphe, on pourrait dire. Hein. C'est à côté, de la cité la citadelle de David. Hein. Je vous invite à partir, à faire un petit tour en Israël. D'accord? Je ne paie pas votre voyage, mais vous y invite quand même. Hein. Anciennement, aujourd'hui, la porte de Jaffa, la porte de la vallée, qui fait penser aux vallées de l'épreuve et de l'affliction. Ah, si je vous dis, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Ouais. La porte de la vallée. Il y a les montagnes, on est plus près de Dieu sur les montagnes. Et il y a la vallée, c'est sombre, c'est quelquefois c'est froid. C'est un petit peu inquiétant, la vallée. Mais il y a cette porte-là qui se trouve, porte de la vallée. Et elle nous rappelle aux uns et aux autres que nous avons choisi Jésus. Mais c'est pas pour ça que nous sommes exempts d'affliction, de tristesse, de peine, de toutes sortes de chagrins. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et David répond, mais je ne crains aucun mal, parce que ma confiance, ma foi est en toi, Seigneur, quoi qu'il en soit. Et c'est un douloureux apprentissage, quoi qu'il en soit, qui néanmoins, puisque toute chose concourt à notre bien, parce que nous avons été appelés par Dieu, c'est un douloureux apprentissage qui va nous fortifier, au lieu de nous détruire. C'est pour ça qu'il dit, mais je ne crains aucun mal. Parce que néanmoins, nos convictions, nos résolutions spirituelles, eh bien, vont grandir dans l'épreuve et dans toutes sortes de choses. Nous n'allons pas nous endormir. Cela va susciter de la combativité spirituelle. Et nous allons rester jeunes, en pleine forme. Voilà, comme votre pasteur d'avant, là, qui est venu. Il paraît en pleine forme. Hein? Là, moi, je commence à vieillir. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais bon. Et ça purifie notre foi, puisqu'il nous est dit que la foi, plus pure que l'or pur. Voilà, c'est ça. Écoutez, dans le livre il est donné ce beau texte dans, par exemple, dans le psaume 84. Je voudrais vous le citer. Le psaume 84, ça nous rappelle des souvenirs, n'est-ce pas? Hein, dans certaines situations. Il est dit ceci, versets 7 à 8. Hein, écoutez bien. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, qui trouvent dans leur cœur un chemin, des chemins tout tracés, et j'en arrive. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baaka, la vallée des pleurs, hein, la vallée des chagrins, eh bien, ils la transforment en un lieu plein de sources, et ils la couvrent de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Eh oui, il la transforme. C'est pas Dieu qui transforme, c'est nous qui marchons dans la foi. Eh bien, de chagrin, ça se change en allégresse. Parce que nous marchons. Parce que nous marchons. Il traverse la vallée de Baaka. Oui, ça c'est la porte de la vallée. La porte du fumier. Alors ça c'est ce qu'on nous avons dit tout à l'heure, mais je voudrais donner la porte du fumier qui donne sur la vallée de Hinnon. Ça, c'est dans, on pourrait dire, le côté sud de Jérusalem. On s'approche de la cité de David, hors les murs. Donc, la vallée du Hinnon. La vallée du Hinnon, ça veut dire la vallée des gémissements. Et pourquoi la vallée des gémissements? Parce que c'est là où, dans les sombres années de la déchéance d'Israël, les rois d'Israël, les rois de Juda également, sacrifiaient leurs enfants aux idoles. Ils les égorgeaient, ils les mettaient au feu, etc., etc. Et c'était on a appelé ça la vallée du saccage. La vallée dramatique, en quelque sorte. Et ça s'appelle également Tophek. Tophek, c'est là où, c'est quelque chose d'hideux, qui a donné le nom Géhenne. Quand on en parle dans la Bible, c'est l'enfer, hein, en quelque sorte. Et c'est là où on évacuait du temps de Néhémie. Aujourd'hui, il doit y avoir autre chose, mais c'est là où on évacuait à cause de ce sombre endroit, de cet endroit sordide, eh bien qu'on évacuait les ordures de Jérusalem. C'est pour ça qu'on l'a appelé la vallée du fumier. Pour évacuer le nuisible et le toxique, c'est-à-dire le péché, tout simplement. Dans Philippiens, c'est Paul qui dira ceci, que dans cette parole, il dira « Mais moi, pour moi, la mort m'est un gain ». Quand je considère ma vie, je n'en fais aucun regret parce que Dieu m'a permis et Dieu a voulu que je me sépare de tout ce qui était inutile, de toutes ces choses qui sont encombrantes, de toutes ces casseroles qui font du bruit et que nous traînons derrière, de tout ce passé, de ce passé de péché, de ce passé de mal que j'ai commis et j'en suis responsable. Mais maintenant, c'est fini. Moi, maintenant, eh bien, cette mort en Jésus-Christ, c'est un gain pour moi parce que je trouve une nouvelle dimension d'existence. Je rentre dans la liberté et cette liberté me donne la sécurité. En quelque sorte. Alors, Paul le dit. L'utilité de la voirie citadine, imaginez-vous à Saint-Nazaire que plus personne ne ramasse les poubelles et imaginez-vous ce que ça peut être. Hein. Quoique maintenant, c'est du tri, hein, on fait que ça. Hein. Il y a des petites boîtes partout, des vertes, des jaunes, etc., etc. On va y passer tout notre temps. Hein. Ou alors on consomme plus. Alors là, il n'y a plus de problème. Voilà. C'est une nécessité absolue dans une communauté, dans une ville. Vous savez, c'est pareil, hein. Imaginez-vous que le ménage n'a pas été fait depuis 2 ans dans cette salle. Je fais un appel aux volontaires pour se joindre à notre équipe. J'en profite. Voilà. Mais toujours est-il qu'on essaie de tenir propre. Parce qu'il y a du passage, il y a quand même du monde qui passe chaque semaine, pour que vous puissiez être bien accueillis, que vous puissiez vous sentir à l'aise. Imaginez-vous qu'il y aurait des papiers partout, que... Il y aurait toutes sortes de choses, hein. C'est pas concevable. On se doit, en tant que chrétien, aimer la propreté, et puis ce qui est tout à fait normal. Donc, une nécessité absolue pour prévenir toutes les contagions. Alors, il n'y a pas que des papiers par terre, dans les églises. Non, il peut y avoir des paroles. Il peut y avoir des sentiments qui ne sont pas bons. Alors, on les laisse tomber par terre, et puis il y a toujours quelqu'un qui va les ramasser, et qui va dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais? Et ça, c'est pas bien. C'est le toxique, la mauvaise langue, la calomnie. Enfin, Dieu merci, hein. Vraiment, le Seigneur a fait du nettoyage, me semble-t-il. Oui, à moins que je m'illusionne, mais moi, je crois. Je crois que le Seigneur fait une œuvre dans vos cœurs, et je vois que le Seigneur a fait une œuvre dans vos cœurs. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Je parle de l'Église. Pour prévenir la contagion. Pour prévenir la contamination aussi. La porte du fumier, c'est pour que justement tout ça, ça soit évacué. C'est une question de salubrité, de santé publique. L'élimination des ordures et des déchets qui polluent. Et ne cherchons pas, par souci peut-être ou par nostalgie d'un temps passé qui n'a pas toujours été le bon, mais que nous idéalisons aujourd'hui, ne cherchons pas à recycler le mauvais, le péché et toutes ces choses dans l'espoir secret de les réutiliser, parce qu'on mettra le point sur l'expérience que nous avons, que ce soit la haine, que ce soit le ressentiment et le non-pardon. C'est irrécyclable, ça. C'est fini, c'est terminé. Alors ne cherchons pas, ça c'est la porte du fini. Nous en arrivons à la porte des sources. Ça va, vous n'êtes pas trop essoufflé? Parce que s'il y en a qui s'essouffle, c'est moi. Mais, avec la grâce de Dieu, je vais aller jusqu'au bout. Nous arrivons à la porte des sources maintenant, qui imagine le chemin qui mène à l'épanouissement et à la plénitude. L'eau est vitale. L'eau, ça rafraîchit. L'eau, ça fait du bien. L'eau, ça nous redonne, eh bien, de retrouver tout ce qui nous est nécessaire. Écoutez, je cite cette belle parole de Jésus parce que je le mets en association aussi, naturellement, dans Jean chapitre 7. Elle est belle, cette parole, parce que finalement, elle fait partie vraiment de notre culture à nous. Chapitre 7, je le lis, il est dit tout simplement, alors c'était au verset 37, je l'ai bien à la bonne page mais pas au bon endroit. Écoutez bien, le dernier jour, le jour de la fête, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et oui, ça c'est la porte de la source. Et moi je bénis le Seigneur de ce que, même si ça déplaît peut-être à d'autres à l'extérieur, mais moi je bénis le Seigneur d'être né de nouveau et de vivre dans une église charismatique, une église où le souffle de Pentecôte a soufflé et souffle encore. Je le dis sérieusement, hein. C'est une grâce. Ouais, les portes de la source, naturellement. Ça veut dire tout simplement le Saint-Esprit dans nos vies. Non pas seulement Dieu avec moi, mais le Saint-Esprit est Dieu en moi, le Consolateur, selon l'évangile de Jean, chapitre 14 et chapitre 16. Oui, l'Esprit dans nos vies. Parce que, mes frères et sœurs, on pourra toujours faire des pieds et des mains, mais ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit, nous dit Jésus. Et moi, je vais à la porte des sources, parce que c'est là où je peux me refaire, revivre et grandir, comme dans la prophétie que nous avons entendue ce matin. Passons par l'expérience de la porte des sources pour les frères et les sœurs qui ont été baptisés d'eau et qui ne sont pas rentrés encore dans cette expérience, mais le Seigneur vous attend à la porte des sources ce matin. Il va y avoir un service de baptême, le Seigneur vous attend aussi à la porte des sources pour vous remplir du Saint-Esprit. Parce que c'est un rafraîchissement, tout simplement. Nous arrivons à la porte des chevaux. Tiens, c'est curieux. Parce qu'il faut savoir, en tant que chrétien, se décharger de tous nos fardeaux. Et quand nous entendons Jésus nous dire, « Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce qu'il n'y a pas que ceux de l'extérieur qui soient être chargés, fatigués. Mais il y a des frères et des sœurs qui sont lourdement chargés, même au milieu de nous, parce qu'ils traversent des tristesses, parce qu'ils traversent des déceptions, parce qu'ils connaissent la maladie physique, morale, toutes sortes de choses, peut-être dans leur vie sociale, dans leur vie économique. Jésus nous dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Vous savez que de tout temps, le cheval a été le compagnon d'œuvre ou d'ouvrage des hommes. Eh oui, aujourd'hui on a fait la mécanisation. Mais vous savez, un tracteur, ça ne hennit pas. Hein. Un cheval, c'est beau, hein. C'est très bucolique, c'est une curiosité aujourd'hui, naturellement. Alors, ça a toujours été le compagnon des hommes. Parce que le cheval, il est fort, il est endurant, il est vigoureux, et il fait des choses que nous ne pourrions jamais faire nous-mêmes, hein, d'une façon ou d'une autre. Et tout ce que nous ne pouvons pas porter, eh bien, quelqu'un l'a fait à notre place. Et vous savez qui c'est? C'est Jésus. Ouais. Lui, nous pouvons dire que c'est lui qui est fort. C'est lui qui est vigoureux. Lui ne se fatigue jamais. Et en plus, lorsque nous sommes fatigués, il est capable de nous redonner, comme nous l'avons lu dans le psaume 84, de nouvelles forces, un regain de force. Alors, s'il l'a fait à notre place, nous devons tout simplement lui faire confiance. Et que ce soit les inquiétudes, les soucis, les tracas, les anxiétés, le péché, la culpabilité, sachons venir et déposer nos charges en passant par la porte des chevaux. Tout simplement. Là, nous dit Jésus, est le repos et le soulagement. C'est pas vrai? Là est le repos et le soulagement. La porte d'Orient. Alors, la porte d'Orient, elle existe encore aujourd'hui. Mais il y a une caractéristique, je vous dirai dans un instant. Parce que ça touche à l'avenir. La porte d'Orient, elle touche à l'avenir. On pourrait peut-être le dire de cette manière, c'est la porte qui symbolise la vision et la prophétie. Si l'on peut l'exprimer de cette manière. Dans le contexte biblique de la réalisation du plan divin, et c'est une certitude, Jésus revient. Ouais, Jésus revient. Jésus revient pour juger le monde, mais avant, il revient pour enlever l'Église. C'est notre espérance. Et là, nous sommes en quelque sorte à la porte de l'Orient, parce que tout se passera au Moyen-Orient. L'histoire du monde est à Jérusalem. Elle est en Israël, l'histoire du monde. La conclusion est dans cette région du monde. Et cette porte d'Orient, c'est en quelque sorte l'attente du Messie. Mais j'y ajoute le Messie sauveur. Messie pour les Juifs qui l'attendent encore, et sauveur pour nous qui est déjà venu. Et pourtant, il y a une caractéristique, c'est que la porte d'Orient est encore aujourd'hui fermée, mais un jour elle va s'ouvrir. Dans la réalisation pleine et entière de toutes les visions et de toutes les prophéties bibliques, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Dieu ne ment pas. Et ce qu'il a dit, il va l'accomplir complètement et totalement. Ça, c'est la porte d'Orient. Et puis une avant-dernière plutôt. C'est la porte des sentinelles, nous dit la Bible, qui rappelle le combat et la prière. Voilà. Et encore dans Ésaïe chapitre 62, nous avons cette belle promesse où il nous est donné ce texte, tout simplement, voilà, 6 et 7, « Sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la rende glorieuse sur la terre, sur tes murs, ô Jérusalem, j'ai placé des sentinelles. J'ai placé des héros, au sens où c'est celui qui crie et qui annonce. Mais il ne fait pas seulement que de crier, il prie, il intercède. C'est le combat et la prière, et c'est le grand défi de l'Église, mais qui nous est assuré dans une victoire dans les lieux célestes. C'est pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. Nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Paul l'écrira en lettres de feu pour nous le rappeler. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des dominations, des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et aujourd'hui, ils sont vaincus, ils sont par terre parce que Jésus a véritablement triomphé d'elle. Ça, c'est notre espérance. C'est la porte des sentinelles, et la sentinelle, elle n'a pas grand-chose à faire. En quelque sorte, elle regarde, elle scrute et elle attend. Mais ce que nous attendons, c'est pas le danger. Ce que nous attendons, c'est pas la catastrophe, bien qu'elle viendra sur le monde, mais nous attendons l'espérance du retour de Jésus-Christ. Nous attendons la grâce, parce que la victoire, elle est déjà prise. Les prieurs, les intercesseurs, ils savent que déjà la victoire est déjà là. Puis je finis. Je finis à travers le psaume 24, parce que c'est aussi une dernière porte qui n'est pas dans le livre de Jérémie, mais elle est dans les psaumes, et je pense que Dieu a pensé à tout. Psaume 24, une partie du psaume 24, et ça c'est aussi quelque chose de très beau. Verset 6 par exemple. « Voici le partage de la génération qui l'invoque, les sentinelles dont nous avons parlé, de ceux qui cherchent ta face, ô Jacob. Porte, élevez vos linteaux. » Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Le roi de gloire, il est venu, il s'appelle Jésus-Christ. Alors, porte de Jérusalem, porte de nos vies, porte de nos cœurs, porte de nos consciences, porte de la vie. Eh bien, elles sont ouvertes maintenant. Vous avez vu le tour que nous avons fait à Jérusalem? Voilà. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Allez au moins une fois en Israël. Allez faire un tour à Jérusalem. Passez-y le temps qui est nécessaire. Regardez un petit peu partout. Alors, vous ne retrouverez peut-être pas la même configuration, mais en tous les cas, quand nous avons la connaissance de la parole dans ce qu'elle nous enseigne, et nous avons que par-delà, finalement, eh bien, les réalités qui ont disparu ou les réalités visibles encore aujourd'hui, on se dit finalement, la véritable porte, elle est ouverte à l'intérieur, et nous faisons encore une fois la place, et nous faisons entrer, et nous faisons la place, eh bien, au roi de gloire dans notre vie, comme un beau jour, Zachée l'a fait. Quand Jésus lui a dit, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Et la suite, il le reçut avec joie dans sa vie, dans sa maison, dans son cœur. Que Dieu nous bénisse. Allez, on va remercier le Seigneur et on va pouvoir louer maintenant d'autant plus fort les uns et les autres, ceux qui ne l'ont pas fait, avec force et véhémence. En tous les cas, nous allons louer le Seigneur pour sa grâce, sa parole et sa bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour la signification de ces portes. Nous croyons que si ça a été écrit dans notre Bible, en effet, un lecteur qui ne serait pas avisé dirait « Mais qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Mais nous voulons croire que, en effet, Père éternel, eh bien, les portes ont été rebâties par Néhémie. Elles ont été édifiées, elles ont été consolidées. Et puis un jour est venu, dans les temps de l'Évangile, le roi de gloire qui est rentré dans Jérusalem et qui est venu apporter le salut aux hommes. Et aujourd'hui, depuis tant de temps, Seigneur, ces portes restent ouvertes. Mais un jour, Seigneur, la porte d'or, la porte du grand roi, eh bien, sera ouverte pour l'éternité, pour tous ceux qui croient, pour l'Église, pour les hommes et les femmes qui s'approchent de toi, qui espèrent en ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.